vous écoutez les Pipelettes. Au micro, Miako, Louise et moi Laure. Aujourd'hui, nous allons vous raconter trois faits méconnus qui se sont déroulés un 26 avril.
Miako nous dira tout sur le bombardement de Guernica en 1937. Laure nous parlera du célèbre peintre Eugène Delacroix, né en 1798. Et je finirai par vous parler de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, survenue en 1986.
Très beau programme en perspective. Vous êtes bien installés ? Les Pipelettes, c'est tout de suite. Imaginez-vous en Espagne. Nous sommes le 26 avril 1937. Le ciel résonne du grondement des avions et le sol tremble sous le poids de la destruction. Guernica, une petite ville du Pays Basque, devient le théâtre d'une attaque aérienne. Mais qui sont les auteurs de cette tragédie? Pourquoi Guernica? Et quelles sont les conséquences? C'est la première fois dans l'histoire qu'un bombardement massif est dirigé sciemment contre les civils. Le 26 avril 1937, des escadrilles allemandes de la Légion Condor ont bombardé Guernica, ville sainte des Basques, pour soutenir le général Franco dans son soulèvement contre le gouvernement du Front Populaire. Mais il n'y aurait pas que ça. Javier Illujo, directeur du Centre d'études basques de l'Université de Nevada, cite
« Fondamentalement, cette attaque avait une double fonction. C'était un bombardement destiné à semer la terreur et une expérience militaire. »
Ainsi, Guernica est ciblée par un bombardement conçu comme une expérience militaire à grande échelle, avec l'utilisation massive de bombes. On estime qu'entre 31 et 40 tonnes de bombes ont été lancées ce jour-là. Ce bombardement était un terrain d'étude idéal pour l'aviation allemande, récemment créée, la Luftwaffe. En théorie, l'objectif de cette attaque était de détruire le pont de Renteria pour empêcher le repli des troupes basques sur Bilbao. Néanmoins, la force disproportionnée de l'attaque démontre qu'elle était en fait destinée à démoraliser les troupes et à décourager la population civile en vue d'accélérer la chute du front nord. Le maire de Guernica, José Laburia, déclare que plus de 1000 personnes ont perdu la vie à Guernica ce jour-là. Guernica est devenue un symbole, un avertissement sur les horreurs de la guerre aérienne et sur les ravages de la stratégie de terreur. D'ailleurs, Picasso a peint Guernica en hommage à cette tragédie. Ce tableau est devenu un symbole anti-guerre et représente l'horreur et la violence de la guerre dont les civils ont souffert ce 26 avril 1937. Je vous laisse avec Catalina par Rosalia Henrenfri.
Thank you.
Place à Laure qui va nous parler d'un artiste connu de tous.
Merci Louise. Si je vous dis massacre, CEO, liberté ou encore peuple, je pense que les possibilités sont fortes pour que vous me pensiez en plein délire. Mais loin d'être névrosé, ces quatre mots sont liés les uns aux autres pour le simple fait qu'on les retrouve dans les tableaux du chef de file du romantisme français, j'ai nommé Eugène Delacroix. Cet homme, qui est né il y a tout juste 226 ans, le 26 avril 1798, et est mort en 1863, est connu de tous pour ses talentueux tableaux où il traite d'événements contemporains de manière romantique. Ses œuvres sont pleines de mouvements, d'arabesques et de compositions non symétriques où il exprime sans filtre des opinions politiques. En effet, ce jeune artiste passionné pour les grandes causes de son temps va peindre des tableaux que vos grands-parents, vous-même et vos petits-enfants ont pu admirer ou admireront plus tard. Mais qui se cache derrière des œuvres comme le massacre de Sio ou encore la liberté devant le peuple? Et qu'exprimait-il à travers ses œuvres? Découvrons-le ensemble. Né dans un milieu favorisé, le jeune Eugène reçoit une excellente éducation. Il fait ses classes artistiques dans l'atelier du peintre néoclassique Pierre-Narcisse Guérin, où il fait la connaissance de Théodore Géricault, avec qui il se lie d'amitié. Delacroix nourrit une vive admiration pour son aîné de 7 ans, auteur du Radeau de la Méduse, dont la mort précoce en 1824 le laisse désemparé. Delacroix débute donc au Salon de 1822 en exposant la barque de Dante, un sujet qui révèle son goût pour la littérature de la Renaissance. L'artiste s'écarte des modèles néoclassiques. Il trouve son inspiration auprès de Michel-Ange et de Rubens, travaille dans le clair-obscur et cherche à exalter une dramaturgie nouvelle. Dans les années 1820-1830, Delacroix enchaîne les succès au Salon, dont certains sont sujets à commentaires et scandales. Les massacres de Sio, la mort de Sardanapale, la liberté guidant le peuple. Ses œuvres, sous le couvert de l'orientalisme ou de la référence littéraire, traitent de sujets en prise avec la politique contemporaine. Delacroix affirme notamment son soutien à la cause grecque, célèbre la révolution des Trente Glorieuses. Il représente la fougue romantique face à la culture néoclassique dont Ingres est le dernier représentant. Dans les années 1840, Charles Baudelaire conçoit une véritable passion pour l'art de Delacroix. Une grande partie de sa vie, Delacroix a tenu un journal de bord. Ses écrits y apportent de nombreux renseignements sur ses relations et ses amitiés. Delacroix y apporte ses impressions, mais aussi de nombreuses réflexions sur l'art des couleurs. En 1832, il effectue un voyage au Maroc qui marque un tournant dans sa vision de l'Orient. Son approche est moins fantasmagorique et livresque que par le passé. Il approche les mœurs et coutumes du monde oriental avec plus de réalisme, et constitue des carnets d'aquarelles, et l'Orient lui évoque une antiquité retrouvée. Une photographie d'Eugène Delacroix prise par Nadar en 1858
révèle la personnalité du peintre. Prestance d'aristocrate, le visage léonin, le regard légèrement hautain. Delacroix pose pour l'histoire. Il est à cette époque le plus grand artiste français. Les 20 dernières années de sa vie sont dominées par de grandes commandes décoratives pour le Palais Bourbon, qui est aujourd'hui l'Assemblée nationale, le Sénat ou encore pour l'église Saint-Sulpice à Paris. Il y réalise deux décors pariétaux, dont la célèbre lutte de Jacob avec l'ange. À partir de 1842, le peintre est malade. Il souffre de troubles pulmonaires et décède en 1863, dans son appartement du 6 rue de la Fürstenberg. C'est là où aujourd'hui se situe le musée qui lui est consacré. Et c'est cette même année où Manet expose au Salon des Refusés son fameux « Déjeuner sur l'herbe ».
J'adore cet air de Rossini. Mais il est temps de retrouver Louise qui va nous rappeler cette terrible tragédie survenue en Ukraine.
Merci Miyako. Il y a 38 ans, jour pour jour, le monde a été secoué par l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a libéré d'énormes quantités de substances radioactives dans l'atmosphère. Les héros de Tchernobyl, aussi appelés les liquidateurs, ont joué un rôle crucial dans la limitation des radiations et la réduction des dégâts. Ces hommes et femmes courageuses, composées de travailleurs civils et militaires, ont donné leur vie pour éteindre l'incendie, enterrer le réacteur endommagé et nettoyer la zone contaminée, évitant ainsi une catastrophe encore plus grande. Le traitement médiatique du nuage de radiation de Tchernobyl a suscité des controverses. Certains pays ont minimisé les risques pour la santé publique, tandis que d'autres ont pris des mesures de précaution, telles que des restrictions alimentaires. Pourtant, les retombées radioactives ont touché des régions bien au-delà de la frontière de l'Ukraine, malgré l'idée très répandue selon laquelle le nuage s'arrêtait aux frontières nationales. Aujourd'hui, la question du nucléaire est plus que jamais d'actualité dans un monde en quête de solutions pour lutter contre le changement climatique et réduire les émissions de carbone. Certains défendent le nucléaire comme une source d'énergie bas carbone et stable, tandis que d'autres soulignent les risques liés aux accidents et à la gestion des déchets radioactifs. La sécurité et la durabilité du nucléaire restent des sujets de préoccupation majeurs dans notre transition vers un monde décarboné.
Les filles, faut y aller.
Eh oui, les pipelettes, c'est déjà fini. Mais ne vous inquiétez pas, car nous serons de retour pour de nouveaux événements le mois prochain.
Et là, ce sera la der des der pour les pipelettes.
En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre site www.radiolfb.net. Laissez des commentaires, abonnez-vous et téléchargez notre programme.
Nous vous laissons avec Still My Sunshine par Len.
Et rendez-vous le vendredi 24 mai pour la dernière des pipelettes. En attendant, nous vous disons
au revoir et bon week-end!
I invite you to